préparant donc cette communication, je me disais que il y a, enfin, je me suis rappelé que j'avais vu dans le New York Times que c'est quelque chose qui montre, si vous voulez, la manière dont on oppose l'école de Birmingham à l'école de Francfort et vice-versa. J'avais vu une sorte de flash, de liste, disons, qui mettait l'une à côté de l'autre les caractéristiques de l'école de Birmingham et de l'école de Francfort pour les opposer. Et en les caricaturant, bien sûr, un peu, et surtout aussi en mettant l'accent sur le mépris pour la culture populaire de l'école de Francfort et le manque d'intérêt pour la littérature, pour la haute littérature, disons, et pour la haute culture de l'école de Birmingham. Et comme quelqu'un qui, disons, s'est approché intellectuellement de ces deux courants très importants de pensée, c'est quelque chose que je ne pouvais pas reconnaître. Donc, le premier point de départ vient de là. Le deuxième point de départ, c'est qu'en venant en France, où je pensais être le centre du monde intellectuel, quand j'étais en Grèce, je me suis rendu compte que tous ces deux courants de pensée étaient quasiment inconnus. On connaissait Hoggart, bien sûr, on connaissait les historiens, disons, il ne faut pas dire on. Mais les historiens connaissaient, quelques sociologues aussi, qui faisaient la sociologie historique, connaissaient Hoggart, mais on ne connaissait même pas la génération d'avant, qui a été importante, je pense, pour leur vision marxiste ou leur avenir marxiste, leur réappropriation marxiste, qui était Raymond Williams, qui était, vous les avez cités, Hoggart, mais aussi d'autres personnages qui s'intéressaient beaucoup à la culture, à l'histoire de la culture populaire, comme Christopher Hill, etc., etc. La seule revue, il y avait une petite revue qui de temps en temps publiait, qui s'appelait L'homme et la société, et Miguel Abensur. Enfin, je dis ça parce que je pense que c'est important de voir de quel point de vue on parle. Alors, pour to make a long story short, je pense que, il faut d'abord situer les deux écoles ont beaucoup de choses en commun. Et ils sont aussi, à mon avis, et ça sera intéressant de le discuter, elles sont positionnées de manière complémentaire. Mais avant de comprendre ça et avant de les comparer en les rapprochant ou en les opposant, il faut les situer dans leur historicité. Et moi aussi, je suis hybride. I'm also hybrid, disciplinary. In a disciplinary sense. OK. Les deux historicités ne sont pas du tout les mêmes, comme vous savez. L'école de Francfort leur préoccupation avec la culture, c'est une préoccupation intellectuelle de la de la haute culture, de la grande culture, encore que, mais ils vivent en même temps dans une société qui traverse une période d'un espace public où il y a une explosion des mœurs, des libertés sexuelles, de l'art, etc., etc. Et ce qui fait que, par exemple, on comprend pourquoi ils ont beaucoup plus de références à la question des rapports de sexe, à la question du genre et de la sexualité. Ce qui n'était pas au début la préoccupation de l'école de Birmingham. Deuxièmement, quand ils commencent quand cette école est créée, surtout quand elle émigre, sa préoccupation première, c'est de comprendre pourquoi une bonne partie de la classe ouvrière, mais plus généralement de la social-démocratie, ne résiste pas à Hitler, Et encore plus généralement, comment expliquer ces mécanismes, cet enthousiasme pour l'obéissance, et donc d'où leur premier grand travail plus disons sociologique et plus empirique. Qui était, qu'ils vont faire aux États-Unis, qui est la personnalité autoritaire. C'est un exemple, disons, du fait qu'ils ne s'intéressent pas seulement par la grande littérature, le théâtre et l'art. Ils essayent, comme toujours dans ces cas, et je pense comme c'est le cas de Birmingham, on a eu deux très bonnes exposées qui expliquaient les conditions, la conjoncture, la situation dans laquelle émerge l'école telle qu'elle émerge. Il faut donc prendre en considération les historicités différentes. Et l'une qui est très pessimiste, je ne parle pas seulement au sens psychologique, mais au sens politique. Ils se sont vus exilés, ils ont vu le grand espoir, la fierté de la social-démocratie se laisser envahir le parti par le fascisme, par le nazisme. Et donc je pense que c'est quelque chose à prendre en compte pour faire cette comparaison. Et en plus, il est intéressant aussi à dire que une partie de l'école de Francfort, pour une partie de l'école de Francfort, la culture populaire est très intéressante. Par exemple, Benjamin, qui était dedans dehors, hein, bon, il était dedans, mais il n'était pas représentatif, si on peut parler en termes de représentativité, mais aussi d'autres intellectuels qui étaient proches, comme Krakauer, par exemple, et d'autres. Alors, je pense que j'ai l'impression, disons, que en fait, cette différence, la différence par exemple que comme on va voir, l'école de Francfort intègre dès le début une interrogation sur la position des femmes, sur les rapports de sexe, sur la sexualité, alors que c'est un peu bizarre de première vue que dans le contexte de 1968, ça ne se pose pas ouvertement à l'intérieur de l'école de Birmingham. Peut-être on devrait essayer de l'expliquer précisément par les contradictions qui sont très différentes. D'une part, bon, tout le monde sait que mai 68, c'était l'explosion, ça a été très bien dit, l'explosion de la diversité aussi de la gauche, d'une part, une diversité aussi assez sectaire, comme on sait, mais aussi, c'était aussi une explosion de la diversité des demandes, de la diversité des revendications. Ce n'était pas seulement une question de la pluralité humaine, c'était une question aussi de, par exemple, la question gay, la question des femmes, etc., ont explosé dans la rue. Je ne sais pas si en Angleterre c'était exactement pareil. J'ai assisté à une seule manifestation, donc je ne sais pas. Mais comment expliquer que le féminisme a été vu, et surtout par quelqu'un comme Stuart Hall, enfin, moi je l'ai connu quand il était plus âgé, mais avec une telle violence. De notre côté, je pense que ce qui est aussi important à voir, c'est que l'intérêt de l'école de Francfort pour la question des sexes, qui n'était pas la question des sexes, Adorno et Horkheimer surtout, qui ont écrit beaucoup et qui se réfèrent beaucoup sur la domination des femmes. Ont un intérêt qui, de nos jours, apparaît totalement antiféministe. Enfin, je veux dire, ils ne parlent pas des femmes, ils parlent de la femme. Adorno a aussi utilisé jusqu'aux années, à la fin des années 30, le terme de le caractère féminin, qui était le nom qu'on donnait aux catégorisations racistes. Il y avait le caractère nègre, il y avait plusieurs caractères de ce type. C'est la femme, c'est-à-dire l'analyse de la domination masculine et patriarcale qu'ils avaient en grande partie empruntée à Weber. Sauf son féminisme, Weber, voilà, renvoyé à une naturalisation des femmes, qui sont toujours des objets de domination, mais jamais et il n'y a jamais un devenir sujet, sauf dans des rares petits passages. Et pourtant, on trouve ce qui est très précieux dans la recherche de l'école de Birmingham et de tout ce qui est autour, parce que je ne connais pas vraiment s'il y a des limites. Il y a eu des influences, etc. Mais ce qui, je pense, est très important, qui est la préoccupation avec les pratiques, les idées, les actions, le mode de changement des classes populaires, des subalternes, etc., était beaucoup plus... avait un côté beaucoup plus, je dirais pas révolutionnaire, mais disons, oui, beaucoup plus révolutionnaire pour la pensée. Et parce que il sous-tendait à la suite, bien sûr, de toute cette école d'historiographie dont nous avons parlé aujourd'hui, la possibilité du devenir sujet, de devenir sujet, de prendre la parole et de créer sa propre culture. Alors, un autre biais par lequel on peut voir ces différences, je dois regarder les petites notes que j'ai fait couper-coller. Je l'ai perdu. Un instant, j'arrive. Hein. Un autre aspect qui était très important et dans laquelle, et dans ce domaine, je pense qu'il y a l'école de Birmingham, le Cultural Studies britannique, en tout cas pour le dire comme ça, a fait des choses très intéressantes, je pense surtout dans l'étude des films, de la télé, etc. Ce phénomène que Stuart Hall appelle encoding, decoding, et en ce qui concerne la lecture le plaisir qu'on prend dans les films populaires avec Happy End et tout. Et qui, pour les membres de l'école de Francfort, était de la pure aliénation. Et je pense qu'il est intéressant, d'ailleurs, de le comparer avec ce qui écrivait de manière un peu hérétique pour les Frankfurtiens Ernst Bloch sur les romans à l'eau de rose, je sais pas comment ça s'appelle en anglais, mais bon, le roman à l'eau de rose, auquel il attribuait une dimension utopique. Une dimension utopique dans ce que ça donnait la possibilité d'exprimer de cette manière le besoin d'autre chose, un autre horizon, un horizon de ce qui n'existe pas. Et ce que, bien sûr, on ne trouve pas du tout à l'école de Francfort. Mais comme je disais, il y a quelque chose qui traverse les deux écoles, non seulement dans le fait que les uns lisent parfois les autres, quand même, on a beaucoup d'exemples de ça, et de cela, mais le point dont je parle, c'est le marxisme. Je voulais insister ici, en revenant à l'école de Birmingham, qui est notre cultural studies britannique, et revenir ici à certaines appropriations de Gramsci, je ne veux pas parler tellement de l'hégémonie, encore que c'est vraiment très important pour le sujet, pour notre sujet, mais c'est surtout la réflexion de Gramsci sur la question de la race, et qui a été thématisée d'ailleurs dans l'école de Birmingham. Je suis désolée que je n'ai pas le texte ici, bon, excusez-moi. Par exemple, dans un texte encore de Stuart Hall qui s'appelle The Relevance la pertinence de la pensée de Gramsci pour la race. Enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est un article très intéressant, et, où et il montre deux choses qui sont vraiment précieuses, qui ont été précieuses pour moi quand j'étais historienne, et après, quand je suis devenue plutôt historienne d'histoire intellectuelle, qui est le... Comment le dire, la manière dont à propos de la racialisation du prolétariat et de la classe des classes ouvrières les plus opprimées en Italie par exemple à sa patrie dans les îles du sud Sardaigne, etc. L'oppression passait par la racialisation, par la stéréotype, par le typage, par la création de stéréotypes et par la racialisation. Et c'est en partie le Southern problem, c'est le problème du Sud, comme l'appelle Gramsci, et qui écrit certaines des pages, je pense, les plus originales sur cette question et pour cette époque, à ce sujet, au sujet du racisme et au sujet de l'intersection entre la race et la classe. Et donc l'exploitation capitaliste qui n'est pas, comme le montre Gramsci, ce n'est pas une exception, c'est juste aux colonies, enfin, mais qui est plutôt une règle. Et je pense que, aujourd'hui, ce genre de... ce type de pensée se développe petit à petit dans les recherches plus jeunes, mais je pense que c'est un aspect vraiment très important parce que contrairement à l'école de Francfort qui parle bien sûr, qui analyse de sa manière, de manière philosophique et parfois de manière très pertinente la question du racisme dans son aspect aussi culturel, puisqu'on parle de cultural studies. Je pense que ce type d'analyse fait précisément ce qu'on demande à ce concept de l'intersectionnalité. Bon, j'aime pas beaucoup le mot, mais enfin, mais vous comprenez de quoi je dis, c'est-à-dire de la manière, disons, de la coextensivité des oppressions et des dominations, montre très bien et nous aide aujourd'hui aussi à comprendre. Le type particulier du racisme qui existe dans nos pays européens, qui est un racisme qui plonge ses racines à une sorte de, à un modèle qui est le modèle de la conquête, de la colonisation et de la racialisation. C'est quelque chose, bien sûr, qu'on pourrait voir en Italie. Enfin, j'ai envie de mettre mes lunettes parce qu'il y a des... Non, c'est pas poli. Il est évident que les migrants, jusqu'à ce que la vague de réfugiés, enfin, la tragédie de réfugiés arrive en Europe, à Lampedusa, etc., c'était le sud, qui était une autre Italie, en Florence, dans le bus, partout, on voyait ça, bon, dans les pays riches du Nord. Donc, je pense que c'est, ce type des outils qui permettent de penser ce qui existe maintenant, pas le passé. Et je pense donne raison. Enfin, c'est un atout très important et précieux de l'école de Birmingham. Et c'est aussi une dimension que les travaux féministes se sont appropriés en travaillant sur la racialisation, sur un des phénomènes de racialisation les plus évidentes et les plus acceptées, admis, qui est la racialisation des femmes de couleur, des immigrés, des descendants des coloniaux, etc. J'ai du temps ou pas?
Encore 7-8 minutes.
Ah, d'accord. Voyons voir. D'un autre côté, je pense que la distinction entre haute culture et culture populaire est une des instances, des dimensions auxquelles on se réfère quand on parle des deux écoles, des deux types de travailler la culture, disons. Cette distinction, je pense que je ne sais pas si elle correspond, dans quelle mesure elle correspond à la réalité, puisque dans nos lectures de cultural studies, on se rend compte que on parle aussi bien de la grande lecture, mais en fait des analyses d'un point de vue d'un point de vue critique, de critique sociale, aussi des textes connus. Et ce n'est pas tellement, je pense, l'aristocratisme, encore une fois, de l'école de Francfort, n'est pas lié forcément à l'importance qu'elle accorde à l'art, à la culture, etc. Ce que, bon, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une des caractéristiques liées à l'époque et au milieu dont il sort. Hein, c'est des professeurs doctorants allemands de leur époque. Nous aussi on est des professeurs, mais pas aussi respectables. Je pense que ce n'est pas du fait qu'il s'occupe de l'art, de la haute art, parce qu'on voit d'autres intellectuels comme eux, comme Benjamin, comme Krakauer, comme beaucoup d'autres, comme même Brecht, etc., qui s'intéressent énormément à la culture populaire. Il y a certains des plus grandes, enfin, des plus beaux passages écrits sur Charlot, enfin sur Charlie Chaplin, et sur la fonction révolutionnaire du rire, enfin du rire et du rire sur soi et sur les autres, et qui montre que, il s'agit beaucoup plus d'un point de vue, je dirais, de statut, bon, ça c'est tout à fait allemand, disons, que du choix des sujets. Parce qu'on voit par exemple qu'il y a, et on peut le voir aussi de nos jours, parce que enfin, quand on enseigne, combien les étudiants aiment Virginia Woolf, les étudiants féministes, comment ils travaillent, les Trois Guinées, par exemple, qui est son texte le plus, controversé, disons. Et ensemble avec d'autres textes. Et donc, je pense que là aussi, ça prête à une réflexion. Qu'est-ce que c'est populaire ? C'est ça, d'une part. Et la deuxième chose. La deuxième chose qui existe, enfin, qui pose des questions dans les discussions sur les études culturelles, c'est la question, est-ce que la culture populaire, elle est toujours intéressante? Et bien sûr, on voit dans les textes qu'elle est toujours intéressante, d'ailleurs, pour étudier, ça c'est sûr, mais on voit qu'il y a une tendance, et encore une fois, il faut encore une fois l'intégrer dans la conjoncture. Quand on vit sous McCarthy, la première chose qu'on voit, c'est la radio et la télévision. C'est-à-dire la première chose qu'on veut interroger, c'est la propagande. Et quand on vient de l'Allemagne, où on sait que le fasciste et les nazis ont donné des radios à tout le monde, Mussolini a donné 2 radios à chaque famille, voilà. Et on voit bien que ce n'est pas juste une question de populaire et de noble, c'est une question, encore une fois, de situation, de conjoncture, sur laquelle je pense que plusieurs des textes de cultural studies que je connaissais, soit de la vieille école comme Williams, soit de Stuart Hall et d'autres, montre que c'est une des données principales pour essayer de comprendre comment se fait ce encodage-décodage. Et enfin, en ce qui concerne la question des femmes, je pense qu'il y a, comme je disais, je vais finir avec ça, et je pense que il y a une grande différence, en effet. Enfin, il y a des parallèles sur les grandes, sur les grands drames qu'on a, enfin, dont on a parlé tout à l'heure. D'une part, à l'école de Birmingham, on a entendu la violence avec laquelle a été ressentie la révolte des femmes, Mais d'un autre côté, on peut aussi voir la même chose. Un peu après 68, je pense que c'est au début des années 71, dans un numéro spécial de New German Critique qui exprime justement cette critique au vitriol. Du phylogénisme, de la phylogénie d'un groupe d'intellectuels qui sont plutôt que féministes, ils aiment les femmes. Enfin, je veux dire, ils trouvent les femmes sympathiques, comment dire. Bon, on sait bien sûr. Bon, je parle pas de la biographie encore, que comment on a compris, la biographie joue un rôle important pour comprendre comment ces écoles se développent. Mais on sait bien comment, enfin, Adorno qui a écrit certaines des lignes les plus critiques sur la domination de sexe, courait après ses étudiantes. Enfin, aujourd'hui, on l'aurait arrêté, j'espère. Pas en France, mais en général. Ce qui est intéressant, c'était aussi une révolte contre Herbert Marcuse, qui était le plus proche du féminisme et aussi des révoltes de 68 de tous, qui avait une vision, pas très proche de Erich Fromm, mais quand même une vision que les femmes sont différentes, elles ont des qualités différentes, non pas parce que par essence, mais par l'histoire, et elles ne doivent pas le perdre, parce que qu'est-ce que va devenir la société si elles le perdent? Cette vision donc du féminisme, cette vision de l'inversion en quelque sorte des femmes d'un poids qui empêche de tourner en rond les cultural studies, à un blessing, je ne sais pas comment le dire, excusez-moi, je suis très fatiguée. Donc, on voit bien que c'est une des premières révoltes publiques dans une revue philosophique qui pose cette question: de quel type de féminisme on parle quand on parle des hommes de la gauche, des hommes de la gauche marxistes qui sont des spécialistes de la domination, hein, et qui ont écrit certaines des pages les plus intéressantes, notamment dans l'analyse de l'Odyssée à propos de l'oppression des femmes et de la manière dont l'oppression des femmes exprime le plus limpidement possible la rationalité instrumentale, hein, qui est au cœur de leur pensée. J'ai fini, ça va.
Merci beaucoup.
Il vaut mieux
pour pouvoir laisser la place au débat et aux questions. Merci beaucoup.